guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Jusqu'à l'année 1794, les fous étaient enchaînés partout en Europe. On n'imaginait pas qu'on dût mieux faire. Pinel brisa les chaînes qui flétrissaient, qui mutilaient, qui irritaient ces malheureux. 80 aliénés de Bicêtre furent déchaînés. De ce changement, il résulta que plusieurs fous regardés comme incurables guérirent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous le savons depuis Michel Foucault. La manière dont une société traite les aliénés, les insensés, les fous, on peut choisir son vocable, est révélatrice à chaque époque de ses équilibres et de ses sensibilités. Anatole Lebras, docteur en histoire, s'est attaché pour le démontrer à la période du XIXe siècle en France et le livre qu'il nous donne permet de s'interroger sur les permanences comme sur les spécificités de l'époque. En faisant ressurgir la sombre cohorte des hommes et des femmes que frappait une maladie mentale, il met au jour les critères qui conduisaient alors à les définir et à les ségréger. Il les saisit à la ville et à la campagne, au cœur des foyers que bouleverse leur présence, puis au centre de l'engrenage d'une séquestration. Les acteurs de cette mise entre parenthèses radicale peuvent être les membres de la famille, mais ceux-ci ne sont à même d'influencer ces destins ravagés qu'avec le soutien, l'approbation, parfois l'incitation des policiers, des maires, des préfets. C'est à eux que revient la responsabilité redoutable d'infliger une perte de liberté qui peut permettre toutes sortes d'abus. Ainsi se retrouve-t-on à la rencontre des ressorts les plus intimes et de la préoccupation collective d'une régulation sociale. Les médecins aliénistes sont dotés pour leur part, au nom d'une science souvent tâtonnante pourtant, d'une double responsabilité, celle de tâcher de guérir et celle de justifier l'incarcération. Non sans que les asiles ne reflètent, que ces hommes en soient conscients ou non, tout à la fois les soubresauts de leur science et les divisions extérieures à leurs établissements, qu'il s'agisse des classes sociales ou de la différence des sexes. Non sans que joue aussi l'influence pesante des préoccupations financières. L'asile se révèle ainsi être un microcosme d'une société déformée par les déviances de la folie. Il l'est aujourd'hui, il le fut alors.
Ça fera bientôt 3 années qu'elle est internée. Interné avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là, seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. C'était une robe, petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil tout autour des fleurs. Et dans sa main, elle, il y avait une main, une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient. qui chantait encore les blouses blanches. Ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit, elle ira leur voler leurs 8 années. Tiens, v'là la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses blouses blanches? Non, puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Vous voyez bien que c'était vrai. Moi, je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui riait, riait, riait. On s'aimera toujours, mon amour. Toujours, mon amour, toujours.
Anatole Lebras, bonjour.
Bonjour.
Édith Piaf, vous l'avez reconnue, chantait « Les blouses blanches » en 1960 sur des paroles de Michel Rivegauche et une musique de Marguerite Monod. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle me paraît fournir une assez bonne introduction à notre conversation. Et la vérité va éclater. Alors, quelle vérité? Il y a beaucoup de vérités différentes selon les acteurs. Et puis dans 10 ans, il y a aussi la notion de temporalité qui est si importante.
Oui, il y a ce temps qui s'égrène au fil de la chanson et qui peut effectivement nous renvoyer à la longue durée et parfois à la très longue durée de certains séjours asilaires au 19e siècle. Et puis, c'est une chanson qui donne la parole ici à une femme folle, qui laisse entendre une protestation, un peu comme certains des éclats de voix qu'on peut saisir dans les dossiers d'asile du 19e siècle. Et puis en même temps, je trouve que la chanson induit un petit peu un trouble. Elle évoque le risque finalement que ces protestations soient interprétées peut-être comme des signes supplémentaires de la folie de cette femme qui est manifestement internée.
Cette incertitude nous conduisant directement à ce qui fait la colonne vertébrale de votre livre, c'est-à-dire la dialectique entre le souci du bien des malades et d'autre part la protection de la société, avec aussi sous-jacente l'interrogation sur qui décide.
Oui, et la loi de 1838, dont on va beaucoup reparler aujourd'hui, prétend résoudre un petit peu d'un seul tenant tous ces aspects du problème de la folie, par une heureuse coïncidence en quelque sorte. L'isolement du fou est censé concourir non seulement à son bien à lui-même, puisque l'isolement est doté de vertus thérapeutiques, du même mouvement, concourir à la tranquillité de la société qui met ainsi à l'écart des individus gênants et qui peuvent être source de troubles à l'ordre public.
Cette loi, qui est fille de la monarchie de Juillet, a connu une postérité extrêmement longue, plus que beaucoup d'autres textes de l'époque, puisque pratiquement elle est restée quasiment jusqu'aujourd'hui en vigueur.
Oui, jusqu'en 1990 précisément. Et la question de sa réforme, donc de son éventuelle suppression ou même de sa modification à la marge, a été posée très tôt, à peine quelques décennies après son entrée en vigueur. Et pourtant, jamais ces projets n'ont abouti jusqu'à donc la fin du XXe siècle.
Nous verrons certains aspects de ces modifications qui sont importantes. Mais pour commencer, je voudrais que vous nous conduisiez dans les campagnes à l'époque du XVIIIe siècle, pour montrer que les fous, le plus souvent, étaient maintenus, incarcérés au cœur des foyers paysans.
Oui, et en réalité, c'est une pratique qui continue à s'observer dans la France du XIXe siècle, et même des décennies après l'application de la loi de 1838, on voit régulièrement ressurgir, que ce soit dans la presse ou à l'occasion de procès d'assises, des affaires de séquestration des aliénés dans leur propre domicile, par leur famille. André Gide nous a fait connaître le cas de la séquestrée de Poitiers, mais en réalité, la plupart des affaires de séquestration du XIXe siècle prennent plutôt pour cadre des domiciles ruraux, des fermes, dans lesquelles, effectivement, ce sont souvent les proches des malades qui sont amenés à les enfermer, à les séquestrer dans une pièce du domicile ou parfois dans des bâtiments attenant à la ferme et dans des conditions parfois assez effroyables.
Vous nous donnez ce témoignage du père d'Ismérie d'Anchel qui, en 1841, décrit de la sorte le comportement de sa fille. Pendant 2 ans, elle resta avec nous. Nous vivions ensemble, mais elle était sujette à la folie. Je ne la laissais sortir qu'avec moi, mais souvent elle parvenait à s'échapper et courait après les hommes pour les embrasser et après les femmes pour les battre. Il lui arrivait souvent aussi de parcourir les champs toute nue. Beaucoup de choses sont déjà dites.
On prend la mesure, à travers ce témoignage du père d'Ismérie, de la variété des comportements du fou, de l'aliéné, qui mettent en péril l'honorabilité, la réputation de la famille. Et c'est souvent à ce titre-là que les proches prennent l'initiative d'enfermer, de séquestrer, pour manifester en quelque sorte leur sens de la responsabilité vis-à-vis de la communauté, pour ne pas s'exposer au scandale que constituerait l'exposition publique de la folie d'un des membres de la famille, et puis parfois pour ne pas s'exposer non plus à ce que l'aliéné cause du dommage aux voisins, par exemple, ou aux autres habitants du village.
Les tribunaux sont parfois appelés à s'exprimer sur ce point ?
Oui, alors la plupart des affaires que l'on peut saisir par le biais des archives sont celles qui ont abouti à un procès d'assises, ou du moins à une révélation des faits par voie de presse. Mais ce dont on prend conscience en étudiant plus précisément ces affaires, c'est qu'elles ne sont très probablement que la partie émergée d'un iceberg, d'un ensemble de pratiques d'enfermement à domicile qui étaient très courants et dont attestent aussi certaines notations des médecins d'asile qui voient parfois arriver à l'asile d'aliénés des individus qui ont été enfermés pour une durée plus ou moins longue, qui dans un cabanon, qui dans une chambre obscure, et qui portent la marque souvent sur leur corps d'un enfermement de très longue durée, auquel n'a pu mettre un terme que l'intervention souvent très tardive de la police ou de la gendarmerie.
Pendant cette période qui couvre la fin du 18e et le début du 19e, on voit assez souvent les lois approuver en somme la séquestration par les familles, avec d'ailleurs un curieux rapprochement avec l'animalité. Dans le code pénal de Napoléon, on trouve qu'à l'article 475, paragraphe 7, sont punis ceux qui ont laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces. Rapprochement frappant.
Oui, rapprochement frappant. Alors, dans ces affaires de séquestration, bien sûr, certains des abus et des mauvais traitements les plus graves peuvent être punis. Mais sur le fait de la séquestration en lui-même, il y a effectivement cet article 475 du Code pénal qui déjoue en quelque sorte les autres articles du Code pénal qui punissent le crime de séquestration et qui donne en quelque sorte raison aux familles qui, pour empêcher un aliéné de nuire, ont décidé de le garder, de le renfermer dans leur propre domicile. Et cet état de la législation ne change pas tout au long du 19e siècle.
C'est peut-être le lieu de dire que vous avez concentré votre attention d'une part sur le Finistère. Ce n'est pas un mystère pour qui entend votre nom que de dire que vous êtes breton. Le Finistère d'un côté et d'autre part l'Île-de-France, la région parisienne. Et c'est évidemment dans le Finistère que vous trouvez le plus ces pratiques rurales.
J'ai choisi ces deux terrains d'étude pour un petit peu pour leur contraste. Le Finistère d'un côté, un département qui reste assez peu urbanisé et encore moins industrialisé tout au long de la seconde moitié du 19e siècle. Et puis le département de la Seine, donc correspondant à Paris et sa proche banlieue, qui évidemment offre un contexte bien différent et puis se porte aussi assez souvent aux avant-postes des transformations de l'assistance aux aliénés avec des réalisations institutionnelles et des dispositifs plus nombreux et plus ambitieux.
Il existe néanmoins déjà sous l'Ancien Régime des lieux, des asiles pour enfermer les fous. Il faut dire les fous, les aliénés, les insensés par parenthèse. Comment évolue le vocabulaire ?
Alors, c'est plutôt le terme d'insensé qui est employé au XVIIIe siècle et s'y substitue au tournant du XIXe siècle le terme d'aliéné. On désigne aussi du nom de médecins aliénistes ceux qu'on appellerait aujourd'hui les psychiatres. Le terme de psychiatre lui-même ne s'impose progressivement qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Donc le terme le plus courant pour le XIXe siècle, c'est bien celui d'aliéné, d'aliénation mentale et de médecins aliénistes.
Parmi les aliénistes les plus fameux de ce tournant du 18e au 19e siècle, il faut évidemment saluer Philippe Pinel. Philippe Pinel qui a été, au moment de la Révolution, le grand représentant d'un effort, d'une aspiration à modifier les choses. Je vais vous le faire entendre, Philippe Pinel. On peut le saluer d'ailleurs à Paris. Et statue par Ludovic Durand est visible dans le 13e arrondissement, place Marie Curie. On le voit brisant la chaîne d'une malheureuse qui est à côté de lui.
La statue a été déplacée récemment d'ailleurs. Auparavant, elle se trouvait boulevard de l'Hôpital, près d'une entrée de la Salpêtrière, sous le métro aérien. Et puis, à l'occasion des travaux récents de la Salpêtrière, elle a effectivement été déplacée vers une place du 13e arrondissement.
C'est une chose bonne à savoir pour qui voudra aller le saluer. Et peut-être le goût de le saluer augmentera-t-il encore quand vous nous aurez dit tout ce qu'il a apporté dans ce domaine, celui de la manière dont la société traite les fous. Écoutez-le. C'est un extrait de l'observation sur l'hospice des insensés de Bicêtre, 1794, qui est lu ici par Laurent Lédraire dans Continent Science d'Ariane Poulantzas, le 8 janvier 2004, naturellement sur France Culture.
L'hospice des fous de Bicêtre n'avait guère été regardé sous l'Ancien Régime que comme un lieu de sûreté et de réclusion pour une classe d'hommes dangereux et qui devait être séquestrés de la société. On croyait avoir tout fait pour eux en les faisant d'abord soumettre à l'Hôtel Dieu à un traitement brusque, par des saignées, des bains et des douches, et on les livrait ensuite à toute l'impéritie d'un directeur sans humanité et aux froides brutalités des gens de service qui opposaient une violence raisonnée aux actes impétueux d'une violence aveugle et comme automatique. On ne comptait pour rien les seuls moyens de rétablir solidement une raison égarée. Je veux dire l'art d'étudier les goûts et les penchants des divers insensés pour leur imprimer une direction contraire. L'art encore plus difficile d'allier à propos avec eux la douceur avec la fermeté, de donner le change aux idées exclusives qui les préoccupent, de n'employer que des moyens répressifs innocents, mais jamais de coups et de mauvais traitements, qui ne sont propres qu'à exaspérer la folie et souvent à la rendre incurable. Pinel, observation sur l'hospice des insensés de Bicêtre, 1794.
Grand personnage donc que ce Philippe Pinel. Le goût vient, quand on est parfois un peu anecdotique, de rappeler que son fils Scipion a été le conjoint de Juliette Drouet avant la rencontre magnifique de celle-ci avec Victor Hugo. Mais je referme cette parenthèse qui ne concerne pas vraiment notre sujet, même si ce fils un peu dévergondé avait fait des dettes que Juliette Drouet a mis beaucoup de temps à rembourser. Je me hâte de fermer cette parenthèse pour vous rendre la parole, Anatole Lebras.
Alors oui, ce témoignage de Philippe Pinel, il nous situe effectivement au cœur de la période révolutionnaire qui est fondatrice du point de vue de l'assistance aux aliénés, hein, puisque c'est le moment où Philippe Pinel va un petit peu poser les bases de ce qu'il appellera plus tard le traitement moral. Un mode de traitement d'approche des aliénés, fait d'un mélange de douceur et de fermeté, comme il le dit, et puis en rejetant les traitements plus brutaux qui pouvaient avoir cours auparavant. On a retenu que Philippe Pinel avait retiré leur chaîne aux aliénés. Ça fait figure un petit peu de mythe fondateur de la psychiatrie française. Les historiens, depuis, ont largement nuancé la portée de ce geste, puisqu'en réalité, Philippe Pinel n'a fait que prolonger un certain nombre de réformes, de modifications du régime des aliénés, qui avait déjà été engagé par une autre figure très intéressante, qui est celle de Jean-Baptiste Pucin, ancien malade de Bicêtre, devenu surveillant, puis gouverneur des fous de Bicêtre, et qui avait déjà commencé, lui, à se passer des moyens de contention et des fers qui, très souvent, enserraient encore les aliénés. Par ailleurs, la portée du geste de Pinel a été un petit peu revu aussi par le récit foucaldien à partir des années 1960, puisque Michel Foucault estimait que finalement Pinel n'avait retiré leur chaîne aux aliénés que pour les enserrer dans un nouvel ordre, dans une nouvelle discipline morale plus que physique celle-ci, mais tout aussi rigoureuse.
C'est le lieu d'évoquer les thèses de Michel Foucault qui a évidemment, notamment à partir du XVIIIe siècle surtout, qui a beaucoup changé le regard que nous avions sur la folie, mais qui lui-même a été discuté assez largement.
Oui, alors ce serait trop long de revenir sur l'ensemble des thèses développées par Michel Foucault, donc à partir de son livre qui est issu de sa thèse, 1961, l'histoire de la folie à l'âge classique.
Son premier grand livre qu'il a installé au cœur de la pensée intellectuelle française.
Et qui a ouvert un champ d'investigation aux historiens, dans la mesure où il participait finalement à historiciser l'objet qu'est la folie. Et il nous disait finalement que cet objet ne préexistait pas à l'acte qui le catégorisait, qui l'excluait. Dans le même temps, effectivement, certains pans de ce récit foucaldien ont pu être révisées, nuancées parfois par les historiens, et des débats et même des querelles fameuses se sont engagées autour de l'héritage laissé par l'histoire de la folie à l'âge classique.
Même par certains philosophes, puisque Michel Gauchet a discuté également ses thèses, de réduire toute l'interprétation à celle du pouvoir des médecins et de la société sur les fous sans faire leur place aux efforts de guérison et d'une certaine façon de bienveillance.
Effectivement, Gaucher, lui, a réinscrit plutôt la naissance de l'institution asilaire moderne dans un mouvement de révolution démocratique. C'est le sous-titre de son ouvrage « La pratique de l'esprit humain ». Lui insiste bien davantage sur l'ambition de resocialisation qui est au cœur du projet asilaire, même si Gaucher lui-même convient volontiers que, bien souvent, cette ambition s'est heurtée à la réalité d'une machine asilaire qui, le plus souvent, exerçait des effets qu'on pourrait qualifier de désocialisants sur les individus qu'elle internait, parfois pour de très longues durées.
Nous ne pouvons pas néanmoins faire l'économie d'une citation de Michel Foucault. Il s'exprime ici, au micro de Jacques Chancel, dans Radioscopie, sur France Inter, 1975.
« J'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. » Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, ce n'est pas du tout par agressivité contre eux. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. C'est à partir de l'asile que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que la connaissance puisse fonctionner, ou si vous voulez, que l'on puisse découvrir la vérité, la réalité, l'objectivité des choses, sans mettre en jeu un certain pouvoir, une certaine forme de domination, une certaine forme d'assujettissement. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées, et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie dans l'asile et qui constitue véritablement l'asile. Alors c'est là où ça m'est apparu.
Nous allons avoir à passer au crible ces affirmations très, très efficaces et peut-être péremptoire, Anatole Le Braz. Mais auparavant, je voudrais que vous restituiez ce qu'a été la croissance des asiles et du nombre des internés au XIXe siècle, en pivotant autour de la loi de 1838 que vous évoquiez tout à l'heure. On se demande si cette croissance tient à l'augmentation du nombre des fous, peut-être à cause de la civilisation urbaine, ou bien si c'est simplement le fait d'une évolution de la manière dont on les perçoit comme fous.
Pour donner effectivement un ordre de grandeur, on peut rappeler qu'au lendemain de la loi de 1838, on compte à peu près 10 000 internés sur le sol français. Loi de 1838 qui impose à chaque département soit de disposer d'un asile d'aliénés public, soit de passer contrat avec un établissement privé ou de s'arranger avec un département voisin pour prendre en charge ces aliénés. Cette loi encourage un mouvement d'institutionnalisation croissante de la folie, puisqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on compte 70 000 internés, donc à peu près 7 fois plus qu'une soixantaine d'années plus tôt. Les médecins aliénistes sont les premiers à s'interroger sur cette croissance un petit peu continue, qui connaît quelques variations locales, mais qui en réalité sont secondaires par rapport à un mouvement de croissance qui est assez uniforme. Bon nombre d'entre eux l'attribuent effectivement aux effets de la civilisation. Ils estiment qu'ils doivent faire face à une sorte de marche inarrêtable qui serait la progression de la folie, liée notamment aux effets de la vie urbaine. Mais un certain nombre d'entre eux signalent également, parce qu'ils sont aux avant-postes de l'observation de ce phénomène, que ce qui est à l'œuvre, c'est aussi probablement une transformation des usages de la loi de 1838, un élargissement de ces usages, et notamment parce que elle place en son cœur des notions comme la dangerosité qui, en réalité, se prête à un petit peu tous les détournements, si bien que la loi de 1838, progressivement, permet l'enfermement de catégories de malades toujours plus larges.
Alors comment est-ce que ça se passe concrètement, la mise en séquestration des insensés ou ceux qui sont définis comme tels ?
La loi de 1838 distingue deux modes de placement à l'asile. Le placement volontaire, qui est opéré sur la demande d'un proche et avec à l'appui un certificat médical d'un médecin extérieur à l'asile. Et puis, deuxième mode de placement, c'est le placement d'office, qui est de loin le plus courant et qui, lui, est demandé par l'autorité, autorité préfectorale le plus souvent, même s'il est prévu que les maires ou, à Paris, les commissaires de police puissent également procéder à des internements en cas d'urgence. Donc ce sont les deux modes de placement qui sont distingués. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi fait du placement à l'asile un acte essentiellement administratif et dans lequel donc l'autorité judiciaire n'intervient pas ou parfois rarement, seulement a posteriori.
C'est d'ailleurs tout récemment qu'on a donné à la magistrature un droit d'influence sur ses décisions qui sont directement attentatoires, quoi qu'il en soit, à la liberté individuelle.
Oui, la loi de 2011, de ce point de vue, a marqué un tournant, puisqu'elle impose, dans le cas d'une hospitalisation sous contrainte, le passage de toutes les personnes qui font l'objet de ces mesures-là devant le juge des libertés, dans un délai de 12 jours, délai qui a donné son nom à un beau documentaire de Raymond Depardon qui nous place un petit peu au cœur de ces prétoires qui parfois sont désormais installés au cœur même de l'hôpital psychiatrique, ce qui symbolise un petit peu ce rôle nouveau effectivement de l'autorité judiciaire, même s'il s'exerce toujours dans d'étroites limites d'après les témoignages des professionnels.
Le grand photographe Raymond Depardon, pour rendre les choses plus concrètes, comme toujours, il faut prendre un cas individuel et vous en offrez un puisque vous avez découvert, Anatole Lebras, un document en Bretagne, un document tout à fait intéressant et ignoré jusqu'ici. C'est la confession ou le récit de Paul Tesch qui est arrivé à l'asile en 1886. Un document très, très révélateur. Je vais vous en faire entendre un extrait et après vous le commenterez si vous voulez bien. C'est une lecture d'Hélène Lausseur que j'emprunte à la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin le 28 février 2019. Vous étiez là, Anatole Lebras?
Oui, j'y étais.
Une fois que j'eusse fait ma première communion, c'est-à-dire le 10 mai 1886, Madame Cartier vint me voir avec mes frères et sœurs et me demanda le métier que je désirais faire. Je lui répondis que je voulais faire des gâteaux, car j'étais un peu gourmand. Et à cet âge, je ne pouvais me figurer qu'il faudrait me gagner ma vie. Je me figurais que je resterais toujours enfant. On me mit chez un pâtissier de la rue de Poitou au numéro 27, et de là je commençais à travailler. Mais au bout de 8 jours, la patronne de la boutique me renvoya à la société sous prétexte que je n'étais pas assez fort pour faire le métier. Car en effet, il me fallait porter d'assez lourds fardeaux pour mon âge. Il fallait que je porte la cuisine en ville dans des espèces de boîtes, et c'est à peine si je pouvais les soulever. On me replaça encore, mais cette fois ce fut chez un cartonnier. C'est de là qu'a débuté mon malheur. Je vous dis tout cela en détail, c'est pour vous faire comprendre que si j'ai fait des bêtises, à cette époque, ce n'était pas de ma faute tout à fait, car j'étais un petit peu arriéré et n'étais pas trop intelligent à cet âge. Un jour, je m'amusais à enfermer un chat dans le garde-manger de mes patrons, et la patronne, en voulant délivrer l'animal, se trouva griffée à la figure. Et pour me corriger, on m'infligea une punition. On me donna le fouet et je me couchais sans manger. Mes patrons pensaient ainsi me punir, mais il n'en fut rien, car je commençais à devenir espiègle. Je devins coléreux et méchant, et pour la moindre des choses, je m'emportais et brisais tout ce qui me tombait sous la main. Puis quand on me corrigeait, je me roulais par terre en poussant des cris affreux de colère. J'en avais pris une habitude. Un jour que j'étais en colère et que je me roulais par terre, j'entendis dire la patronne à son mari qu'elle croyait que j'étais atteint d'une maladie de nerfs. Et quand j'entendis ces paroles, pour faire croire que j'étais malade, je me roulais encore plus fort et faisais de sorte que ma colère durait plusieurs heures. Quand on vit que j'étais si méchant et que l'on me croyait atteint d'une maladie des nerfs, on me conduisit à l'infirmerie spéciale du dépôt, d'où l'on me renvoya à l'asile clinique Sainte-Anne, où je restais pendant 8 jours. Je devenais insupportable et monsieur le directeur Magnan m'envoya à Bicêtre, le 20 octobre 1886.
Sur cet exemple d'engrenage que vous avez mis au jour, Anatole Lebras, c'est d'ailleurs le sujet de votre premier livre, dont je donnerai les références tout à l'heure. Que dire ?
En tout cas, c'est un texte qui nous place véritablement au seuil de l'asile d'aliénés. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des écrits de patients, dont l'autobiographie de Paul Teche retrouvée dans son dossier à l'asile de Quimper n'est qu'un exemple. Le placement à l'asile amène beaucoup d'internés à se mettre en récit et parfois à donner une version un petit peu différente de celle qu'on trouve dans le certificat médical, qui finalement saisit les aliénés au moment de leur entrée et au moment de leur séjour dans l'institution, mais ne nous en apprend pas toujours suffisamment, en tout cas pour satisfaire notre curiosité, sur la vie antérieure de ces aliénés. Et puis, Paul Teche décrit ici le circuit qui est celui des aliénés à Paris, qui est celui par lequel ils entrent dans ce monde asilaire, et donc qui commence dans cette institution un petit peu particulière, qui est l'infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police. Le dépôt qui était situé sur l'île de la Cité.
Il est parisien ou il est breton ?
Il est parisien, c'est un orphelin parisien qui, au gré de son parcours asilaire, a fini par être transféré en Bretagne.
Et vous l'avez retrouvé dans le Finistère ?
C'est cela. Et... Donc le dépôt de la préfecture de police, c'est cette institution par laquelle transitent aussi bien les prévenus que les personnes arrêtées sur la voie publique que l'on peut soupçonner d'aliénation mentale.
Celles-ci sont... Ce rapprochement parle beaucoup d'ailleurs.
Oui, effectivement, c'est le grand lieu du triage et du partage malaisé que l'on essaie de faire entre le champ de la délinquance, du crime et celui de la folie. Ceux qui sont considérés comme fous passent du côté de l'infirmerie spéciale où ils sont examinés par des médecins aliénistes. De là, ils sont envoyés à l'asile Sainte-Anne qui a ouvert à la fin des années 1860 et qui constitue une forme de plaque tournante à partir de laquelle sont redistribuer les aliénés vers des établissements situés en proche banlieue, celui de Bicêtre qui exerçait depuis longtemps une fonction d'accueil des aliénés hommes.
Et la Salpêtrière ?
La Salpêtrière pour les femmes, et puis un certain nombre d'institutions nouvelles qui datent de la fin des années 1860, comme l'asile de Villévrard, que j'étudie dans le livre, et puis l'asile de Vaucluse qui est située à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Votre personnage nous informe sur ce que vous appelez la condition aliénée, parce qu'au fond, c'est ça votre éclairage. La condition aliénée, c'est celle de cette émission, comme d'autres parlent de la condition ouvrière ou s'intéressent à la condition noire.
Oui, condition aliénée, parce qu'il suffit peut-être pas de dire que la loi de 1838 est une loi qui enferme les individus, qui les prive de leur liberté. C'est aussi une loi qui transforme à bien des égards leur statut, qui modifie le statut juridique notamment des internés, qui en fait des mineurs juridiques, qui les prive de la possession de leurs biens, qui les coupe dans une certaine mesure de leurs liens familiaux. On y reviendra, puisque le principe fondateur de l'asile et la loi 1838, c'est l'idée d'un isolement thérapeutique.
Vous évoquez les pauvres, les miséreux, mais c'est un large spectre social qu'on retrouve parmi ces aliénés. Il y a aussi des fous qui appartiennent à des classes plus privilégiées.
Ce qui explique que le spectre social accueilli à l'asile soit effectivement relativement large, c'est notamment la présence de pensionnats payants dans un grand nombre des asiles, et y compris des asiles publics. À Villévrard, par exemple, il y a un véritable deuxième asile dans l'asile, qui est la maison de santé, qui porte d'ailleurs cette appellation qui est un petit peu moins stigmatisante que celle d'asile d'aliénés, et qui essaie de capter une forme de clientèle un peu plus aisée, même si elle doit faire face à la concurrence assez rude de toutes les maisons de santé privées qui sont légion à Paris. Donc il y a ces pensionnats payants qui effectivement accueillent des patients qui ne sont pas forcément issus des couches populaires de la société. Mais d'une manière plus générale, disons, quand on se penche un petit peu sur la sociologie des internés à la lumière des registres d'entrée dans les établissements, on constate que la population internée ne se résume pas à la partie la plus marginalisée ou la plus miséreuse de la population. Elle est en fait plutôt représentative, on va dire, de la diversité des couches populaires, du Finistère rural et urbain, comme de la région parisienne dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Les aliénés bourgeois échappent à votre analyse, non ? Ils sont également internés.
On en trouve quelques-uns, notamment dans cette fameuse maison de santé de Villévrard, mais disons que la fraction la plus élevée des classes bourgeoises ou de la noblesse parisienne, elle dispose d'institutions plus discrètes et plus huppées qu'on peut retrouver en proche banlieue ou du côté de la maison du docteur Blanche, qui a notamment été étudiée par l'historienne Laure Murat.
Et qui est au centre de tout un monde littéraire. Et c'est là que se retrouvent beaucoup d'écrivains qui frôlent l'aliénation.
On y a vu passer effectivement des figures telles que celles de Maupassant, plus illustres qu'un Paul Teche, mais pas forcément moins prolixe quand il s'agissait de coucher ses pensées sur le papier.
Ah, ce sont les effets de la syphilis, apparemment.
Oui.
Puisque vous parlez des familles, il faut s'attacher à ce rôle qu'elles ont pu avoir. Il y a un cas, évidemment, très fameux qui concerne la fin de votre période, le 19e siècle, élargi au début du 20e. C'est celui, évidemment, illustrissime de Camille Claudel, la sœur de Paul Claudel, l'élève et collaboratrice de Rodin, d'Auguste Rodin, qui est interné en 1913 et qui restera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Écoutez donc, si on s'intéresse à l'histoire des familles dans ces internements, je crois que c'est assez éclairant. Et peut-être peut-on généraliser ce propos. Écoutez donc une lettre de la mère de Camille Claudel et de Paul Claudel au directeur de l'asile, qui est lu ici par André Marcon, dans Une vie et une œuvre de Bénédicte Niogret, 10 février 1994. C'est évidemment la vie et l'œuvre de Paul Claudel, dont le comportement à l'égard de sa sœur a parfois été jugé de façon, comment dire, diverse.
Madame Claudel, au directeur de l'asile de Montevergue, 1915. Je ne veux à aucun prix la retirer de chez vous, où elle se plaisait il y a très peu de temps. Je ne vais pas la changer d'établissement tous les 6 mois. Et quant à la prendre avec moi ou la remettre chez elle, comme elle était autrefois, jamais, jamais. J'ai 75 ans. Je ne puis me charger d'une fille qui a les idées les plus extravagantes, qui est remplie de mauvaises intentions à notre égard, qui nous déteste, et qui est toute prête à nous faire tout le mal qu'elle pourra. S'il faut ajouter un supplément au prix de sa pension pour qu'elle ait plus de confortable, je ne demande pas mieux, mais gardez-la, je vous en supplie. Elle vivait chez elle comme une miséreuse, ne voyant qui que ce soit depuis 10 ans, se faisant voler par tous ceux qui lui vendaient de la nourriture. Les portes et les fenêtres étaient enchaînées, cadenassées, et c'est dans une caisse posée sur une des fenêtres qu'on lui portait à manger. Quant à sa personne et son appartement, c'était quelque chose d'horrible. Elle passait son temps à écrire des lettres à des vauriens ou à des dénonciations. Enfin, elle a tous les vices. Je ne veux pas la revoir. Elle nous a fait trop de mal.
Comment peut-on réagir à cette lettre, Anatole Le Braz? Ça fait un peu froid au dos.
Oui, c'est une lettre très dure, dans laquelle on retrouve certains motifs hein, qui sont assez fréquents dans les lettres des proches. Cette idée qu'elle nous a fait trop de mal, et puis cette incapacité ou cette mauvaise volonté quand il s'agit de reprendre l'aliéné chez soi, qui peuvent être ici liées bien sûr à ce conflit de longue durée entre une fille et sa mère, mais aussi manifestement à des facteurs plus structurels et matériels, qui sont l'âge très avancé de la mère de Camille Claudel. Alors cependant, peut-être qu'il faudrait pas trop généraliser à partir de cet exemple-là, parce que ce qu'on voit dans les dossiers d'asile du 19e siècle, c'est aussi beaucoup des familles qui interviennent plutôt en faveur des aliénés qui sont internés. Et en réalité, les lettres qui réclament la sortie d'un interné sont bien plus fréquentes que celles qui, au contraire, demandent la prolongation, le maintien de son internement. On voit très souvent des familles qui s'opposent, parfois même de manière assez vigoureuse, assez frontale, à l'autorité médicale, pour hâter ou pour réclamer une sortie qui est refusée par le médecin.
Alors regardons de plus près, si vous voulez bien, la manière dont le corps médical, ce qu'on appelle les aliénistes, vous l'évoquez, ensuite sont devenus les psychiatres, comment ils envisagent leur tâche, comment ils définissent l'aliénation. Il est intéressant d'observer cette définition médico-légale de l'aliéné dans la leçon d'ouverture du cours de psychiatrie médico-légale d'Ernest Dupré. On est en 1904, donc à la fin de votre 19e siècle. Il disait « Le mot aliéné vient de aliénus, étranger. Étranger à quoi ? Étranger aux lois habituelles de la pensée, aux règles ordinaires de la conduite, étranger à la mentalité commune, source de nos actes en société. Aliénus, étranger, vient de alius, autre, et cette étymologie montre la signification primitive et foncière du mot aliéné. L'aliéné est celui qui, par sa pensée, ses actes, sa conduite, se montre autre que ceux qui l'entourent. » Il n'y a pas là de jugement dépréciatif ?
Pas nécessairement dépréciatif, mais en tout cas, c'est une définition de l'aliéné qui en fait une figure de radicale altérité, de radicale différence. Effectivement, les médecins aliénistes, dans les études médicales qu'ils peuvent mener à partir de leur observatoire qui est l'asile d'aliénés, vont être amenés à faire la liste finalement de toutes les formes de déviance qui se manifestent chez leurs patients.
Les pathologies ne manquent pas, effectivement. Idiotie, imbécilité, débilité, démence et démence sénile, manie et monomanie, mélancolie et l'hypémanie, c'est-à-dire dépression, épilepsie, aliénation mentale, aliénation furieuse, agitation, alcoolisme, dégénérescence, paralysie générale et démence paralytique. Cette notion de dégénérescence qui émerge beaucoup à cette période, fin du 19e siècle, est importante.
Oui, elle est importante. À partir des travaux de Bénédicte Augustin Morel en 1857, elle prend une place croissante dans les réflexions des aliénistes, réflexions qui sont prolongées notamment par Valentin Magnan, qui propose de refonder la classification des maladies mentales autour de ces notions d'hérédité et de dégénérescence. Mais en tout cas, ce qui est marquant effectivement à la lecture des registres d'entrée des établissements, c'est cette grande diversité, cette hétérogénéité de la population internée dans les asiles au XIXe siècle, qui recouvre aussi bien le champ, ça a été dit, de la folie alcoolique par exemple, que celui de ce qu'on qualifierait plutôt aujourd'hui de forme de handicap ou de déficience mentale, en passant par des manifestations, disons, plus classiques de la folie, les diverses catégories de la manie ou les formes de dépression. Et puis cette catégorie un petit peu particulière qui est celle des paralytiques généraux, donc des malades qui en réalité étaient arrivés au stade tertiaire de la syphilis au moment où la maladie s'en prenait à leur système nerveux et à leur cerveau.
Anatole Le Braz, en dépit des progrès de la médecine aliéniste, on est sensible à la diversité un peu hésitante des diagnostics. Votre cher Paul Tesch est jugé de la sorte, vous allez voir, par la diversité des médecins. C'est une lecture de Rémy Goutalier dans La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, février 2019.
9 octobre 1886, docteur de la garde, épilepsie, débilité mentale. 10 octobre 1886, docteur Magnan, débilité mentale avec épilepsie. 6 novembre 1886, docteur Bourneville, hystéro-épilepsie. Décembre 1888, puis juin 1889, docteur Bourneville, hystérie simulée. Novembre 1893, docteur Marandon de Montiel, épilepsie. Mai 1895, débilité et perversions instinctives, attaque épileptiforme, stigmate physique de dégénérescence. Décembre 1895, faux épileptique. 3 avril 1904, dépression mélancolique, préoccupation hypochondriaque. Juin 1897, puis janvier 1900, dégénérescence mentale avec folie morale, mauvais instinct. Docteur Meillon.
Quelle conclusion tirez-vous de cette diversité, Anatole Le Braz ?
Bien d'abord, celle d'une certaine labilité du savoir des médecins aliénistes, hein, qui, confrontés à un même cas, à des intervalles de temps assez peu éloignés, vont conclure à des diagnostics assez différents. Et puis aussi celle de la diversité qu'on observe à l'échelle d'une trajectoire asilaire. Et donc c'est tout l'intérêt de suivre ces trajectoires, que de ne pas se limiter au bref aperçu en quelque sorte photographique qu'on pourrait avoir si on se concentrait par exemple sur le seul moment de l'entrée à l'asile à un moment donné.
Il y a aussi la question du genre, autrement dit, beaucoup d'idées circulent à cet égard, parfois aventurées. La question du genre, la diversité du traitement envers les femmes et les hommes. Et à propos des femmes, on pense évidemment au professeur Charcot, qui était le maître de Sigmund Freud, à la Salpêtrière, et qui organisait chaque année une balle des folles, sur lequel on peut s'arrêter un instant. Un roman récent vient de mettre en valeur cet épisode, le roman de Victoria Mas. Et puis il y a eu des films qui en ont été tirés. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? D'abord, est-ce que Charcot fait partie de votre monde ?
C'est autour de lui, effectivement, que se sont un petit peu cristallisées les représentations autour de la folie féminine, de l'enfermement féminin à la fin du 19e siècle. En réalité, c'est vrai qu'il a un statut un petit peu particulier par rapport à mon objet d'étude. Charcot est un neurologue. Il exerce à la Salpêtrière, qui comprend une partie qui accueille des aliénés, mais qui pour le reste est un hospice qui accueille des patientes atteintes de pathologies très très diverses. Donc en réalité, Charcot, il se situe pas dans le champ de cette pratique asilaire selon la loi de 1838, et donc son service et ses patientes ne sont pas forcément représentatives du quotidien de l'enfermement de la folie féminine au 19e siècle.
Contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas plus de femmes enfermés que d'hommes.
Tout dépend du point d'observation que l'on choisit. Si on regarde la population des asiles à un moment donné, par exemple au 1er janvier de chaque année, on observe effectivement un surplus féminin. À peu près 52% de femmes internées au milieu du 19e siècle, plutôt 55% dans les premières années du 20e siècle.
Mais en
réalité, si on observe les statistiques d'admission, la réalité qui se dégage est bien différente. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont internés chaque année. Si les femmes sont plus nombreuses à un moment donné, c'est qu'elles restent plus longtemps à l'asile, qu'elles en ressortent moins. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut expliquer. Mais toujours est-il que si on se concentre sur le processus d'admission à l'asile, effectivement, il faudrait pas s'imaginer les asiles d'aliénés comme une immense machine fonctionnant pour interner toutes les formes de la déviance féminine. Ça a bien sûr pu être le cas. Et puis le savoir psychiatrique du 19e siècle était éminemment patriarcale, mais l'asile d'aliénés, la loi de 1838, ont aussi fonctionné comme un outil de régulation des déviances masculines. Et parmi ces déviances masculines...
La violence,
l'alcoolisme, deux comportements qui sont majoritairement masculins au 19e siècle, et puis qui nous signalent un petit peu ce fonctionnement. Je crois que c'est Alain Corbin qui parlait des injonctions contradictoires de la virilité au 19e siècle.
Oui.
Il faut exercer sa force, mais sans trop d'excès. Il faut boire, mais pas trop, pour manifester sa virilité. Et parmi les aliénés, eh bien, nombreux sont ceux qui ont un petit peu franchi cette limite imperceptible et qui, par des manifestations un petit peu exacerbées de leur virilité, ont basculé dans le champ d'une déviance qui leur a valu un internement.
Du côté des femmes, on trouve souvent chez les aliénistes la préoccupation de ne pas les rejeter sur le pavé, comme ils disent.
Exactement, c'est en vertu de cette conception un petit peu paternaliste que bien souvent, les médecins aliénistes montrent certaines réticences à laisser ressortir des femmes, et plus particulièrement si elles sont célibataires. Et ça, d'un point de vue statistique, ça se voit très bien. Quand on est une femme célibataire, et même à pathologie et à caractéristiques sociales égales, on a beaucoup moins de chances qu'un homme qui serait célibataire également à ressortir de l'asile d'aliénés. Et donc là, c'est une des clés d'explication de ces plus longs séjours asilaires, combinés à d'autres caractéristiques, comme le fait qu'il y a beaucoup d'hommes alcooliques qui, eux, font quand même des séjours courts, qui, le plus souvent, se terminent par une sortie de l'asile d'aliénés.
Qu'est-ce que ce bal des folles que j'évoquais il y a un instant ?
C'est une tradition, en fait, qui remonte à bien avant Charcot. Hein. C'est pas lui qui a inventé cette pratique-là. C'était un moment où effectivement on organisait un bal dans lequel pouvaient se mêler aussi bien les femmes folles de la Salpêtrière que le tout Paris un petit peu mondain qui venait guidé par un mélange de curiosité, de fascination, frayé avec les internés le temps d'une soirée dansante et costumée.
Je voudrais que nous terminions notre conversation sur ce monde des aliénés au 19e siècle, Anatole Le Braz, en évoquant la manière de sortir de l'asile. Car il y a tout un discours anti-aliéniste qui s'est inquiété du fait qu'on ne laissait pas la liberté aux enfermés de pouvoir sortir s'il était légitime qu'il le soit. Il y a un côté enfermement. Il y a d'ailleurs un texte magnifique de ce grand homme de gauche qui a été Georges Clemenceau. Lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur en 1906, il adresse à tous les préfets une note qui est aussi une admonestation. C'est le 18 juin 1906. L'idée que l'un de nos semblables peut être indûment retenu dans un asile d'aliénés est intolérable à la conscience humaine. Il n'en est point qui soulève dans l'esprit public de plus vives et de plus justes émotions. Et il conclut son propos en appelant les préfets à assurer une enquête personnelle en allant dans tous les asiles pour vérifier qu'il n'y a pas de femmes ou d'hommes qui soient indûment ségrégés et maintenus sous ces verrous spécifiques. Il dit, à propos de cette enquête, « Si cette enquête, discrètement mais minutieusement conduite, ainsi qu'il convient, ne révèle le maintien dans un établissement public ou privé d'aucune personne indûment retenue, il faudra se réjouir hautement d'une telle constatation. Si d'aventure, au contraire, elle aboutissait à la libération ne serait-ce que d'une personne saine, et dont le maintien dans un établissement d'aliénés ne fut point justifié, chaque homme de cœur, c'est toujours Clemenceau qui parle, ministre de l'Intérieur, chaque homme de cœur devra se féliciter d'avoir collaboré à une telle œuvre de justice. Vous voudrez bien, monsieur le préfet, m'accuser réception, etc. » C'est clair.
C'est clair et c'est un beau texte. Mais comme souvent, il y a loin de la loi, ou en l'occurrence de la circulaire, à la pratique. Et donc, il ne faudrait pas se figurer qu'après ce texte de Clémenceau, il y ait eu une grande vague de libération des îles d'aliénés. Il y a effectivement certaines institutions où on a observé des commissions se mettre en place pour examiner les demandes individuelles et leur faire droit si cela paraissait approprié. Clémenceau, en fait, en prenant cette circulaire, il offre une réponse peut-être un petit peu tardive, mais à tout ce courant de critique effectivement de la loi de 1938 qui a beaucoup mis l'accent sur le problème des séquestrations arbitraires, notamment à partir de la fin du Second Empire, et qui a beaucoup été animé par des militants républicains. L'historienne Aude Fauvel a étudié dans le détail ce courant de protestation. Mais il faut bien dire que la Troisième République n'a guère tenu toutes ses promesses de réforme ou de mise à bas des bastilles modernes que constituaient les asiles d'aliénés. Ajoutons au sujet de Clémenceau qu'ensuite, en novembre de la même année, de 1906, il prend une autre circulaire de manière à essayer de faire sortir de l'asile d'aliénés toutes les personnes, et notamment les internés les plus vieux, qui pourraient bénéficier de la loi de 1905 sur d'assistance aux vieillards qui a été prise un peu plus tôt l'année précédente. Mais de la même manière, ce sont des textes qui ont pu constituer parfois des précieux points d'appui pour des internés qui parfois pouvaient avoir connaissance de ces circulaires. Hein. J'ai le cas d'un interné qui écrit une lettre en se réclamant de la circulaire récente de 1906. Mais statistiquement, ça n'a pas influé considérablement sur les mouvements d'entrée et de sortie des asiles d'aliénés.
Un autre aspect des choses, c'est évidemment l'aspect de la tutelle, autrement dit l'aspect financier. En 1938, Camille Claudel écrit à son frère Paul Claudel, écrit ceci. C'est un extrait d'une causerie de l'ORTF le 3 juillet 70.
Mon cher Paul, au moment des fêtes, je pense toujours à notre chère maman. Je ne l'ai jamais revue depuis le jour où vous avez pris la funeste résolution de m'envoyer dans les asiles d'aliénés. Je pense à ce beau portrait que j'avais fait d'elle dans l'ombre de notre beau jardin. Je n'ai jamais revu le portrait, pas plus qu'elle. Si jamais tu en entends parler, tu me le diras. Je ne pense pas que l'odieux personnage dont je te parle souvent ait eu l'audace de se l'attribuer comme mes autres œuvres. Ce serait trop fort. Le portrait de ma mère. Ta sœur en exil, Camille.
L'odieux personnage est évidemment Auguste Rodin.
Oui, et sa bande à laquelle Camille Claudel, dans de nombreuses lettres, dont certaines considérées comme manifestement délirantes, à laquelle elle fait effectivement beaucoup de reproches dans une forme, peut-être à des moments, de délire, de persécution. En tout cas, elle utilise cette image de l'exil qui est assez belle, qui est assez forte, qui fait écho aussi à un thème qu'on retrouve souvent sous la plume des aliénés, qui est celui d'une forme de mort civile et sociale qu'amènerait l'internement à l'asile.
Mort civile, mort sociale, ce qui veut dire aussi un risque que d'autres mettent la main sur ce que les aliénés peuvent avoir de bien personnel. C'est la question de la mise en tutelle.
Oui, la loi de 1838 modifie le statut juridique des aliénés. Elle en fait des mineurs juridiques. Elle les prive notamment de l'administration de leurs biens. Alors, tous ne possèdent pas de biens, évidemment, mais certains en possèdent tout de même, même s'ils sont modestes. Et ils se voient donc dépossédés de la gestion de leur possession, qui est confiée à une administration provisoire qui relève de l'administration de l'asile et qui souvent, en fait, est bien plus préoccupée de prélever dans, par exemple, l'épargne des internés pour s'acquitter des frais de séjour à l'asile, que de véritablement agir en vue de la préservation de leurs intérêts et d'une sortie future de l'asile d'aliénés.
Et dans les textes que vous trouvez, les correspondances des aliénés emprisonnés, vous relevez souvent des suppliques aux médecins à cet égard et l'affirmation que des droits sont bafoués.
Oui, et sortir de l'asile, c'est le thème principal des lettres des aliénés, du moins de celles qui ont été conservées. Mais en effet, la demande de sortie, c'est le thème principal de ces lettres, soit sous la forme d'une supplique, d'une demande de faveur à titre individuel, soit, plus rarement, sous la forme d'une protestation, d'une véritable remise en cause de l'autorité médicale au nom de droits qui auraient été bafoués par la loi de 1838.
Avec le recul, nous sommes maintenant, vous l'avez noté sûrement, au XXIe siècle. Comment les choses ont-elles évolué? Quel rôle en particulier de la justice? Quel est l'effet des lois récentes qui ont été élaborées, les dernières étant toutes récentes?
Oui. Alors, l'institution psychiatrique en elle-même a déjà connu d'importantes transformations. La règle désormais est que si hospitalisation il doit avoir, ça doit être qu'une partie d'un parcours de soins qui est beaucoup plus large, qui comprend une gamme beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus adaptée aux divers moments ou aux diverses situations sociales que rencontrent les personnes ayant besoin d'un traitement psychiatrique. La loi, effectivement, a changé en 1990. Elle fait désormais beaucoup plus de place à des hospitalisations libres et donc consenties, qui sont majoritaires aujourd'hui. Malgré tout, depuis quelques années, quelques décennies peut-être, on a observé une forme de tournant sécuritaire en psychiatrie qui est dénoncée par beaucoup à la fois de personnes psychiatrisées, de psychiatres ou de soignants, qui amène à un regain assez récent des hospitalisations sous contrainte, dont le nombre augmente régulièrement ces dernières années, et qui nous rappelle que le soin psychiatrique a toujours cette particularité de passer par la contrainte et la coercition, et donc engage à ce titre des questions très, très délicates autour de la liberté individuelle des patients.
Vous avez, Anatole Lebras, offert à notre curiosité, à notre intérêt, deux ouvrages sur le thème qui nous a réunis ce matin, celui des aliénés au XIXe siècle. Aliénés, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle, publié par les excellentes éditions du CNRS tout récemment. Et c'est aux mêmes éditions qu'en 2018, vous aviez donné le livre qui s'intitulait « Un enfant à l'asile, vie de Paul Tesch, 1874-1914 ». Nous avons vu ce personnage à qui vous avez redonné vie, passé dans notre propos. J'ai cité Clémenceau, on retrouvera le très beau texte que j'ai évoqué dans le numéro 1 de la publication annuelle qui s'appelle « L'année Clémenceau », paru en 2017, également aux éditions du CNRS. Et puis, j'ai le goût de rappeler le livre que vous avez beaucoup apprécié, me dites-vous, Anatole Lebras, de Laure Murat, qui s'intitulait « L'homme qui se prenait pour Napoléon », paru chez Gallimard en 2011.
Oui, c'est une belle relecture de l'histoire politique du XIXe siècle par le prisme des institutions psychiatriques.
Vous trouverez une bibliographie plus complète, bien sûr, sur notre site, avec notamment la liste des ouvrages de Michel Foucault, également Marcel Gauchet, etc., etc. Et vous pourrez y trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés. Écoutez, réécoutez et podcastez cette émission.
La folle qui passe et qui repasse dans la rue, le long des yeux, son tablier tout taché de trous, dans le vent fait des signaux blancs. Son cœur ne répond rien, il n'est pas là. La folle est plus folle que jamais, la folle est plus folle que jamais.
Et tandis que nous entendons en arrière-plan la belle chanson de Pauline Julien, la chanteuse canadienne, La Folle, 1958, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Benjamin Reyes à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et pour la documentation qui nous est toujours si précieuse, Christine Anzano.
Pour s'en faire des cheveux d'argent, le ciel s'est replié pour bien longtemps. La folle est plus belle que jamais.